qualité en toute simplicité. Ebenezer International. The Digital Gospel Journal. La radio qui vient vers vous pour vous servir. Bonjour mesdemoiselles, messieurs, bonjour et merci de choisir la radio qui prend à cœur votre édification spirituelle, Ebenezer International. C'est Franck Doristil, votre ami podcasteur, qui vous revient avec une nouvelle édition de Logos Pod. Tous les habitués de cette station savent bien que Logos Pod est une rubrique conçue pour vous faire écouter des sermons préparés par un pasteur, un théologien ou un prédicateur, tout simplement. Ce peut être aussi un message enregistré dans un culte auquel nous avons participé et pour lequel nous avons l'autorisation du responsable de cette église. L'émission du jour est une courtoisie de trésors sonores. Nous saluons toute l'équipe et nous remercions tous nos frères et sœurs qui travaillent dans cette association, qui nous donnent l'autorisation d'utiliser n'importe quel fichier de leur base pour l'édification de nos auditeurs. À Dieu et à lui seul soit toute la gloire. Le message du jour nous sera apporté par le prédicateur Alain Choiquier. Il a été prêché en 1982. C'est une courtoisie de trésors sonores ainsi que les différents morceaux que nous allons vous proposer dans cette émission. Nous vous souhaitons d'ores et déjà une agréable écoute. Hello and welcome to the Digital Gospel Channel, the radio Ebenezer International, your station. My name is Frank Doristil and I will be your host as you listen to this new episode of Logos Pod, a very special corner on our radio program where you can listen to some very special message from our various preachers and pastors. Don't forget to tell all your friends and relatives to join us at www.radioeben-ezerinternational.com. www.radioeben-ezerinternational.com. Stay in there in pitch as you will listen to the first song selected for your pleasure. This program is a courtesy of Trésor Sonore. May God bless you.
Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Il m'aime, il m'a tant donné. Je choisis de suivre celui qui me fait vivre. Je ne reste pas seul dans la nuit. Je prends sa main et marche, jamais ne la relâche. Guider et dans mes têtes.
Logospod, sur la radio qui vient faire vous pour vous servir. Ebenezer International, votre radio. Après ce beau chant signé du groupe HTTP 386, nous rappelant combien l'amour de Dieu est merveilleux, nous allons maintenant céder la place au message du jour intitulé « Le plus grand commandement » prêché par l'évangéliste Alain Schroyquier en 1982. Bonne et agréable écoute.
J'ai pensé que nous pourrions ce matin nous laisser réveiller par le Seigneur au niveau du plus grand de tous les commandements que nous allons rappeler par une lecture dans l'évangile de Marc au chapitre 12. Nous lisons à partir du verset 30, répondant à une question d'un scribe, le Christ de répondre ce qui suit. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas d'autre commandement plus grand que cela. Il se fait très souvent, chers frères et sœurs, que nous aimions à rappeler l'amour dont nous sommes constamment les objets de la part du Christ et de la part de Dieu. Il se fait très souvent que nous aimions à nous souvenir combien nous sommes aimés de Dieu, n'est-il pas vrai? Et je crois que nous faisons bien de nous rappeler cela. Mais disons qu'il est plus rare qu'on entende au sein de nos milieux évangéliques et qu'on entende parler du plus grand des commandements. Parce qu'à l'amour de Dieu, il faut répondre par l'amour. Et je crois que Dieu lui aussi aime à entendre et à voir de manière concrète que nous l'aimons. C'est le plus grand de tous les commandements. Mais peut-être qu'une question se pose à nous d'entrée de jeu. Comment se fait-il que le Dieu qui est l'amour dans sa personne, dans son être, dans son essence la plus profonde, comment se fait-il que ce Dieu-là ait besoin que nous l'aimions en retour? Parce que ce matin, le thème du message est le suivant. Le Dieu d'amour qui a besoin d'être aimé de nous. Vous allez peut-être un peu trop loin, Alain Schroyquier, en affirmant que Dieu a besoin d'être aimé de ses enfants. Certainement pas. Pensez-vous que ce commandement qui est le plus grand serait précisément le plus grand entre tous si Dieu n'avait pas besoin que nous l'aimions? C'est le plus grand de tous les commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Comment t'expliquer cela? De la manière suivante. Si vous me demandiez de dessiner Dieu sur un tableau noir ou blanc, que pourrais-je dessiner? D'emblée, nous pouvons dire que Dieu ne se dessine pas. Et c'est vrai, Dieu ne peut pas se dessiner. Mais nous savons, et la Bible l'enseigne, c'est là l'une des plus belles, des plus grandes révélations qui nous soient faites sur la personne de Dieu dans les Saintes Écritures, nous savons que Dieu est amour. Et qui veut dessiner l'amour, dessine quoi? Allez, les jeunes qui sont ici, hein, qu'est-ce qu'on dessine? Je n'entends pas. On dessine un cœur quand on veut dessiner Dieu. Parce que s'il est vrai que Dieu est l'intelligence infinie, s'il est aussi la cause première, s'il est l'existence fondamentale, comme disent nos savants, il est aussi l'amour dans sa personne. Et quand on veut dessiner l'amour, c'est un cœur qu'on dessine. On rapporte volontiers l'histoire suivante, celle d'une fillette qui avait certaines dispositions pour la peinture et le dessin, laquelle est allée un jour vers sa maman pour lui dire « Maman, je voudrais dessiner Dieu, comment est-il ?» Alors sa maman, qui était chrétienne, stupéfaite par la question, de lui dire « Écoute ma fille, Dieu ne se dessine pas. » Parce que Dieu, c'est ce qu'il y a de plus grand, de plus beau, de plus extraordinaire. Dieu ne peut pas se dessiner. Il est écrasant de majesté, de sainteté, Éblouissante beauté, tu ne peux pas dessiner cela. Et la petite fille, en entendant ainsi sa mère lui parler de Dieu, de lui répondre, « Ah bon, maman, Dieu sait tout cela ?»« Eh oui, Dieu sait tout cela, tu ne peux donc le dessiner. » Et la petite fille, dans sa tête, alors de réfléchir et de dire encore à sa maman, « Ah bon, si Dieu sait tout cela, eh bien je ne tenterai pas de le dessiner, parce que si j'essayais de le faire, certainement que je lui ferais trop de mal. » Et à vouloir bien sûr nous représenter Dieu, comme c'est le cas très souvent, nous portons atteinte à son image de marque. Dieu a une image de marque intouchable, à laquelle il est interdit de porter atteinte. Mais pour dessiner l'amour, c'est un cœur que l'on dessine couramment. Alors si l'on veut dessiner Dieu, c'est un cœur qu'on pourrait dessiner, mais un cœur trop grand pour la feuille de papier, bien sûr. Un cœur trop grand pour cette salle. Un cœur trop grand pour la France. Encore que la France soit aimée de Dieu. Quelle joie de le savoir. Que Dieu aime la France. Et un peu partout où j'ai l'occasion d'aller en France, je dis aux Français, où que ce soit à Paris ou ailleurs, Dieu aime même les Français. Vous vous rendez compte, hein? J'étais en Bretagne il y a peu de temps. J'ai dit aux Bretons, Dieu aime même les Bretons. Ils m'ont regardé de travers, il y a eu un mouvement de foule, parce qu'il faut faire attention aux Bretons, hein, c'est généralement du granit. Il n'y a pas de Bretons parmi nous, non? Ce matin, levez la main les Bretons. Ouh, pardon, ne m'attendez pas à la sortie, hein. Et puis je dois vous dire que mon épouse est bretonne. Ceci pour vous calmer. Oui, et me trouvant au Québec, j'ai quitté le Québec il y a 9 jours de cela, j'ai pu dire aux Québécois que Dieu aime même les Québécois. Là aussi, il y a eu un mouvement de foule, mais j'ai vite ajouté, il aime aussi même les Français. Dieu est un cœur, trop grand pour le Québec, ai-je dit là-bas, encore que le Québec fasse à peu près 4 fois la France, une seule province du Canada. Parce que c'est un cœur immense, qui ne peut pas se dessiner. Mais quelle joie de se savoir aimer de ce cœur-là qui bat pour nous ce matin, qui bat pour la France, le Québec, l'Afrique, la Russie, la Chine et les autres pays du monde. La Bible dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique » afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu est donc un cœur. Vous conviendrez avec moi que si un cœur a vocation d'aimer, et celui de Dieu aime par excellence, un cœur a aussi vocation d'être aimé. Et si un cœur qui aime n'est pas aimé en retour, il est triste. Terriblement triste. Et il me semble que le cœur de Dieu est triste. Aujourd'hui, non seulement parce que l'amour de ses enfants en France est quelque peu souvent mitigé, mais que, d'une manière générale, ce Dieu-là qui aime le monde n'est pas aimé en retour, comme il attend normalement de l'être. Est-ce que nous aimons ce Dieu qui a non seulement vocation d'aimer, mais qui a aussi vocation d'être aimé. Et ce Dieu-là veut, pour tout christianisme de notre part, une relation d'amour entre lui et nous, entre nous et lui. Et c'est ce que j'ai couramment prêché un peu partout dans le monde, surtout à des hommes et des femmes qui sont là méfiants du message qu'ils entendent. Je leur dis que je ne prêche pas une religion. Pas même la meilleure, parce qu'aucune religion ne sauve. Pas même la meilleure. Ce qui sauve, c'est toujours Christ, une personne, avec laquelle entretenir une relation, beaucoup plus, beaucoup mieux qu'une religion, faite de tradition, faite d'un héritage religieux hérité de nos pères. Une relation vivante, une relation d'amour, le Christ nous aimant, et nous l'aimant en retour comme il le demande. Dieu veut donc non seulement que nous l'aimions, et c'est ce qui ce matin doit nous réveiller, mais Dieu veut que nous l'aimions d'un amour de premier plan. Il ne veut pas être aimé de n'importe quel amour. Il ne veut pas être aimé comme cela quand on y pense ou quand ça nous chante. Il ne veut pas être aimé des miettes de notre cœur. Il veut être aimé d'un amour de premier plan. Et faisons le détail à présent pour voir de quelle manière Dieu veut que nous l'aimons. Tu l'aimeras de tout ton cœur, pour commencer. C'est quoi le cœur? Le cœur passe pour être généralement le siège de nos sentiments. En d'autres termes, tu l'aimeras de tous tes sentiments. Tu feras en sorte que ton cœur batte pour Dieu. Et je pose la question, je sais que nous sommes ici une grande majorité de chrétiens. Est-ce que nos cœurs battent pour Dieu en tout premier lieu? Est-ce que nous vivons pour Lui? Est-ce que notre cœur déborde d'affection pour Lui? Dieu a besoin d'être aimé de nous. Dieu est un cœur, il attend que nous l'aimions d'un amour de premier plan, de tous nos sentiments, de tout notre cœur. Parce que Lui nous aime de tout son cœur. Je disais tout à l'heure que son cœur bat pour nous, est-ce que le nôtre bat pour Lui? Tu l'aimeras de tout ton cœur. Et Jésus de poursuivre, c'est Jésus qui rappelle ce commandement enseigné par Dieu à Moïse en Deutéronome 6:5. Tu l'aimeras aussi de toute ton âme. Est-ce que l'âme est une affaire qui se distingue du cœur? Certainement. Et pour savoir ce que l'âme signifie, il faut en venir au latin. Pour autant qu'il m'en souvienne, là encore, j'ai fait du latin dans le secondaire, l'âme est un mot français qui vient du latin anima, qui signifie l'âme, ou encore du verbe latin animare, qui signifie animer. L'âme est en sorte ce qui nous anime. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ce qui t'anime. De tout ce qui t'anime. Et en particulier de ta volonté. Tu l'aimeras volontairement ton Dieu. Tu l'aimeras de toute ton âme. Dieu voudrait que notre âme, tout ce qui nous anime donc, s'attache à Lui pour faire sa volonté. Et tu l'aimeras aussi de toute ta pensée. La pensée se distingue-t-elle, elle aussi, du cœur et de l'âme, certainement. La pensée est synonyme d'intelligence. Parce que Dieu pense, il a voulu que l'homme pensât aussi. Nous devons donc aimer Dieu de toute notre intelligence, de tout notre génie à mettre à son service, lui manifestant ainsi que nous l'aimons. Et c'est ainsi que nous aimons Dieu. Est-ce que nous l'aimons de toute notre tête? Dieu ne veut pas que nous l'aimons simplement de tout notre cœur, et qu'il y ait une sorte de divorce, de dichotomie, comme disent nos théologiens, entre la tête et le cœur. Dieu veut que nous l'aimions à la fois de tout notre cœur et de toute notre tête. Dieu veut que nous mettions toute notre intelligence à lui manifester que nous l'aimons. En est-il ainsi de notre amour pour lui? Est-ce que nous l'aimons de toute notre tête, de tout notre génie, cette intelligence qui est en nous et qui nous a été donnée de lui, qui a été régénérée par le sang du Christ à mettre à son service? J'ai été époustouflé toutes les fois où je me rends en Amérique ou au Canada, comme ce fut le cas il y a peu de temps. Je suis littéralement stupéfait du génie des chrétiens mis à la disposition de l'Évangile pour l'avancement du royaume de Dieu. Tandis qu'en France, très souvent, ça n'est pas le cas. Je dirais, à notre honte quelque peu, que c'est dommage, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton génie, de toute ta pensée. Tu l'aimeras de toute ton intelligence, de toute ta tête. Puis ensuite, Jésus te poursuivre et tu l'aimeras de toute ta force. Pas simplement dire à Dieu que nous l'aimons, mais le lui prouver concrètement, en lui livrant toutes nos énergies à mettre à son service quotidiennement. C'est lui que nous servons à tous les niveaux, tant au niveau familial que professionnel. Est-ce que nous avons le sentiment que c'est Christ que nous servons jusque dans notre profession ? Dans l'Église, bien sûr, mais où que ce soit, tu l'aimeras de toute ta force. Que de déperdition d'énergie souvent chez nous chrétiens. Pour des choses futiles parfois, futiles et vaines, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de toute ta force. Et c'est de cette manière-là que nous devenons ces adorateurs que Dieu attend de nous. Dieu cherche des adorateurs, a dit le Christ à une femme en Samarie. C'est ainsi que Dieu fait de nous de vrais adorateurs, parce que adorer consiste à être ravi en amour auprès de Dieu. L'adoration est le sommet de l'amour, c'est le point culminant de l'amour. Voué à Dieu. Et tant que Dieu n'est pas réellement aimé de cette manière-là, il n'y a vraiment pas d'adoration qui vaille pour lui. Nous pouvons être souvent ce peuple qui l'honore des lèvres, mais dont le cœur est éloigné de lui. L'adoration, un ravissement, un amour auprès de Dieu, parce qu'il n'est rien que nous aimons autant que lui. Autant que lui. Et c'est de cette façon-là qu'il occupe alors chez nous la première place. C'est en effet ce que nous aimons le plus qui tient chez nous la première place. Alors, est-ce qu'il a la première place chez nous ce matin ? Il est tellement facile de dire à Dieu que nous l'aimons, qu'il a la première place, mais de façon concrète et pratique, est-ce la réalité ? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée de toute ta force. Mais Alain Choiquier, nous avons quand même des épouses, j'en ai une, à laquelle ce matin je me suis pressé de téléphoner, parce que c'est son anniversaire, pour lui souhaiter bon anniversaire. Et puis, nous avons des enfants, bien sûr que nous en avons. Il y a quand même des affections légitimes, certainement, qui ne doivent pas être négligées sous prétexte d'aimer Dieu. Attention. La Bible dit ce qui suit, celui qui n'aime pas les siens et n'en a pas soin, celui-là est pire qu'un infidèle, il a renié la foi, et ça n'est pas un encouragement ce matin à abandonner les nôtres pour aimer Dieu davantage, pas du tout, au contraire. Toutes ces affections légitimes qui doivent prendre place en nous devraient se situer dans ce grand amour de premier plan que nous avons à vouer au Seigneur. Il faut que toutes ces affections légitimes, dans quelque direction que ce soit, à quelque niveau que ce soit, soient comme trempées dans ce grand amour, baigne dans ce grand amour qu'il importe de vouer au Seigneur. Et voyez-vous, en considérant les 10 commandements, ce qu'il est convenu d'appeler le décalogue, Dieu commence par parler de qui ? Qui en a le souvenir ? Le décalogue, les 10 commandements. Par qui Dieu commence-t-il de parler ? Pardon ? Il parle de qui pour commencer ? Mais il parle de lui. En ces termes, « Je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » Le décalogue commence de cette manière-là. Dieu est en tête du décalogue, et ce n'est pas par hasard qu'il est en tête du décalogue. Pourquoi ? Parce qu'après avoir parlé de lui-même, il parle de quoi ? Il parle du travail, il parle de la famille, et il parle du prochain. Il parle de 4 choses, en substance. Il parle d'abord de lui-même, ensuite du travail, ensuite de la famille, et enfin du prochain. Parce que le reste ne peut tourner rond, ne peut être encourageant et béni que si Dieu est en tête. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Souvenez-vous de cela. Au niveau du décalogue, c'est Dieu qui est en tête. Dieu d'abord, pour que le reste marche. Et la plupart du temps, Dieu est relégué au dernier wagon du train.
Et même chez certains chrétiens évangéliques, et on se pose la question alors de savoir pourquoi tant de dépression, tant d'angoisse, tant d'agitation, tant de souffrance souvent, à cause de nous, au niveau de nos vies chrétiennes qui n'arrivent pas à s'épanouir, à être des vies chrétiennes heureuses, joyeuses, qui glorifient le Seigneur, réjouissent son cœur. Dieu d'abord, tu l'aimeras lui le premier, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée. Et pour commencer, avant de parler cet après-midi d'un autre thème qui colle à celui-là, Dieu d'abord dans nos vies chrétiennes. Et j'ai été aussi littéralement soufflé de constater que dans l'Évangile, le Christ était en quête d'affection. Je vous propose cette étude au plan personnel. Non seulement le Christ a été parmi nous l'amour du Père incarné, non seulement il nous a ouvert le cœur du Père en même temps que il nous a donné accès au trésor de ce même cœur du Père, mais il nous a manifesté son désir d'être aimé des hommes. Je prends par exemple un texte par excellence en Jean chapitre 14. Où le Christ dit ce qui suit en Jean chapitre 14 verset 15, le Christ en quête d'affection, en quête d'amour de la part de ses disciples, de la part des hommes de sa génération. Le Christ disant ce qui suit, « Si vous m'aimez ». Verset 15, verset 21, « C'est celui qui m'aime et celui qui m'aime ». Verset 23, « Si quelqu'un m'aime ». Verset 28, « Si vous m'aimiez ». Et nous nous souvenons de quelle manière il a questionné Pierre. En Jean 21, 17, « Pierre, m'aimes-tu ? » Pierre, m'aimes-tu ? Pierre, m'aimes-tu ? Si le Christ nous posait cette question à trois reprises ce matin, de façon directe et personnelle, je crois que nous serions très gênés sur notre chaise. Comme d'ailleurs le fut l'apôtre, gêné de cette question posée à trois reprises. Pierre, m'aimes-tu ? Mais oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Il est tellement facile de dire au Christ que nous l'aimons. Et le Christ, comme pour lui dire, mais non, tu n'as pas compris, Pierre, je te demande si tu m'aimes. Et Pierre de reprendre, mais oui, tu sais que je t'aime. Non, mais c'est trop vite dit, cela. Tu n'as pas encore compris. Est-ce que tu m'aimes ? Alors là, Pierre, vraiment attristé de la question. Seigneur, tu sais que je t'aime. Oui, l'apôtre Pierre était un homme auquel il fallait souvent répéter trois fois les mêmes choses. Pour le secouer. Et pour lui donner de mettre en pratique. Mais si le Seigneur n'avait à nous dire que trois fois les mêmes choses, que ce serait formidable. N'est-il pas vrai ? Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. Le Christ en quête d'affection, parce qu'il aimait, parce qu'il avait un cœur pour les hommes, il avait besoin d'être aimé d'eux en retour. Il est venu chercher les hommes, en même temps que leur affection. Il est venu leur donner sa vie. Mais en échange, le Christ veut notre vie. Et puis, posons la question. Suffit-il de dire à Dieu que nous l'aimons pour qu'il le croie ? Pour que ce soit vrai ? Il arrive très souvent qu'au cours de cultes ou d'autres réunions, nous disions à Dieu la phrase que vous savez, « Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, nous t'aimons. » Et je crois qu'il est bon de le lui dire. Comme il est bon à mon épouse que je lui dise mon amour et qu'il m'est bon d'entendre le sien. Il est bon que nous nous disions notre amour entre époux et je crois qu'il est bon qu'avec Dieu nous nous disions mutuellement notre amour. Nous savons combien Dieu nous a aimés et de quelle manière il l'a exprimé cet amour. Mais de notre côté, suffit-il de lui dire que nous l'aimons pour que ce soit vrai et pour qu'il le croie ? Bien sûr que Dieu voit beaucoup plus loin que nos seules paroles, Et dans ce qui va suivre, j'ai conscience que nous pourrions là être aussi quelque peu bousculés de Dieu et quelque peu réveillés. Mais si ce matin le Seigneur a mis sur mon cœur de vous entretenir de ces choses, c'est simplement qu'il me les a dites pour commencer et qu'il m'a bousculé le premier. Dieu a au moins trois façons pour tester notre amour à son égard. J'espère que vous êtes tous bien assis et accrochez-vous. Accrochez-vous du mieux que vous pouvez. Au moins trois façons. Nous lui disons, Seigneur, tu sais que je t'aime. C'est d'accord. Dieu nous a entendus. Premier test, Jean 14, 21. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il nous attend au tournant, le Seigneur. Et il ne se laisse pas bercer par nos paroles. Si nous n'aimons pas la parole de Dieu, de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre pensée, elle aussi, hein, c'est du baratin. Parce que Jésus a dit, celui qui garde ma parole, c'est celui-là qui m'aime. Jean 14, 23, 24. Est-ce que nous aimons la parole de Dieu? Est-ce que nous la serrons sur notre cœur? Est-ce qu'elle fait la joie et l'allégresse de notre cœur? Est-ce que nous la dévorons chaque jour? Je dis bien, est-ce que nous la dévorons? Pourquoi? Bien parce que c'est elle qui nous fait connaître davantage le Seigneur. Nous la lisons pour grandir dans la connaissance de notre Sauveur, de notre Seigneur. Nous la lisons, nous l'étudions pour pénétrer davantage sa personne, son cœur, son œuvre. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. Il faut non seulement les avoir, garder la parole de Dieu, mais il faut aussi l'aimer, cette parole. Jérémie, par exemple, a dit en Jérémie 15, 16, « À Dieu, bien sûr, j'ai recueilli tes paroles, je les ai dévorées. » Et tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Vous avez des chrétiens évangéliques qui ne lisent leur Bible qu'une fois le dimanche matin ou qui n'attendent que le message du culte pour nourriture, pour toute la semaine. Alors à partir de ce matin, il importe de décider de lire la parole de Dieu tous les jours. Et il y a là en librairie de quoi nous aider à la lire tous les jours, de quoi nous orienter aussi dans la façon d'aborder une lecture quotidienne, une étude quotidienne de la parole de Dieu.
Prenons maintenant une pause musicale avec l'artiste Sissa Bernard, un chant intitulé « La voix du salut ». Avant la deuxième partie du message.
J'étais perdu.
Bonne écoute.
Maintenant j'ai vu la voie du salut. Et je comprends que Dieu a voulu nous révéler la voie du salut. Oh, c'est la voie de la vérité, de l'abondance pour l'éternité. Venez, venez, venez et suivez
la voie du salut.
Venez, venez, venez regarder
la voie du salut.
Venez, venez, venez et suivez
la voie du salut.
Venez, venez, venez regarder
la voie du salut.
Kunjo ke dal tamarero tamarero legi mangi fi ci yonu mucce gisna begel gisna yer mande. Amna tiofel, ti yonu yalla,
yonu yalla.
La voix du salut, moi yonu mouche. Ti top dal, say adio fadju. Bulwerante, bulte sante. Umbil sahol, ti yonu mouche. Venez, venez, venez et suivez
la voix du salut.
Venez, venez, venez regarder
la voix du salut.
Venez, venez, venez et suivez
la voix du salut.
Venez, venez, venez regarder
la voix du salut.
Si quelqu'un est en Jésus, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes son passé et sa vie devient nouvelle. Si tu viens, tu seras plus le même.
Venez, venez, venez et suivez
la voie du salut.
Venez, venez, venez regarder
la voie du salut.
Venez, venez, venez et suivez
la voie du salut.
Venez, venez, venez regarder
la voie du salut.
Dégloulin, topelin. Yonu mucho bile, yonu mucho bile, yonu mucho. La voix du salut, salut pour toi. Voix du salut pour tout le monde. Voix du salut pour tout le monde. Et sans exception, c'est pour toi là.
Venez, venez, venez et suivez
la voie du salut.
Venez, venez, venez regarder
la voie du salut.
Venez, venez, venez et suivez
la voie du salut.
Venez, venez, venez regarder
la voie du salut.
Venez, venez, venez et suivez
la voie du salut.
Venez, venez, venez regarder
la voie du salut.
Venez, venez, venez et suivez
la voie du salut.
Venez, venez, venez regarder
la voie du salut.
La voie du salut. La voie du salut.
Nous devrions avoir soif, faim de Dieu au niveau de sa parole. Parce que par-delà la parole de Dieu, c'est lui que nous cherchons à connaître davantage. Et plus nous lisons la parole, plus sa vie fait un pacte sur nous. Et plus nous faisons un pacte sur l'Église et sur le monde. Il n'y a pas d'autre chemin que celui-là. Premier test. J'ai coutume de dire que lorsque j'étais militaire en Algérie avec mon épouse, on s'écrivait tous les jours. Vous avez peut-être entendu de mes cassettes à cet égard, d'un message prêché en évangélisation. Et je disais qu'avec Jeanne, nous avions convenu de nous écrire tous les jours. Alors que j'étais en Algérie pour mon service militaire, elle était à Paris. Je l'avais quittée pour la guerre d'Algérie, mais nous avions convenu de nous écrire tous les jours. Et nos lettres se croisaient au-dessus de la Méditerranée tous les jours. Tous les jours j'avais une lettre de Jeanne. Tous les jours elle avait une lettre de moi, excepté le dimanche bien sûr. Les jours fériés et les jours de grève, que nous n'aimions pas. Et j'ai coutume, lorsque je prêche sur cette illustration, à partir d'un texte des Saintes Écritures en 2 Corinthiens 1, 18 et la suite, je disais que je ne cherchais pas autre chose que Jeanne dans ses lettres. Et que couramment j'avais coutume de poser la question, qu'est-ce qu'Alain Choitier cherchait dans les lettres de sa fiancée? À l'époque, puisque nous étions fiancés. À Bruxelles, il y a peu de temps, dans un auditorium au fond de la salle, quelqu'un a crié « Vous cherchiez sa fidélité !» Alors à cela, j'avais répondu certainement, mais beaucoup mieux que cela, beaucoup plus. Un Belge devant, de crier à son tour, « Vous cherchiez Alain Choitier son amour !» Je dis certainement. Mais encore beaucoup plus que cela, beaucoup mieux. Alors les Belges avaient commencé de se gratter la tête. Il n'y a pas de Belges ce matin au moins ici, non? Il y a des Belges. Alors je me dois de faire attention. J'aime beaucoup les Belges. J'y vais très souvent en Belgique. Et un Belge plus intelligent que les autres, là, plus spirituel, au centre de l'auditoire, de lever la main et de crier de toutes ses forces, « Alain Choitier, dans les lettres de Jeanne, vous cherchiez les fautes d'orthographe. » Pas question du tout. Et j'ai dû, pour finir, donner ma langue au chat, plutôt donner ma langue aux Belges, pour leur dire « C'est aussi simple que cela. » Alain Choitier, dans les lettres de Jeanne, cherchait Jeanne. C'est elle qui m'intéressait dans ses lettres. Et en effet, dans ses lettres, elle me racontait ses journées à Paris, etc., ses journées à l'Assemblée, ses journées un peu partout. Alors je cherchais son amour, sa fidélité, certainement, mais beaucoup plus que cela, je la cherchais, elle. Et dans la lettre du Christ, on cherche, bien sûr, la fidélité du Christ, bien sûr, l'amour du Christ, bien sûr, la grâce du Christ, bien sûr, le visage du Christ, mais on cherche Christ, sa personne, que nous découvrons de plus en plus, et qui est le plus grand trésor de notre cœur. Jésus ayant dit, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Je pose la question. Est-ce que le Christ ce matin est le trésor de notre cœur? Il se fait que les chrétiens ont tellement de trésors que le Christ pâlit dans leur vie. Second test qui ne trompe pas et qui permet à Dieu de tester notre amour pour lui au niveau du plus grand de tous les commandements. Si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est du baratin. Ça n'est pas très exactement cela que Jean a dit. Mais au fond, c'est tout à fait cela. C'est un menteur. C'est un menteur. Celui qui dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est un menteur. Pourquoi ? Car celui qui n'aime pas son frère qu'il voit, comment peut-il aimer Dieu qu'il ne voit pas? Et nous avons du Christ le commandement suivant, celui qui aime Dieu aime aussi son frère. Et je vous pose la question, le frère lui, où se situe-t-il? Où le trouvons-nous, le frère? Sinon dans l'église, sinon dans l'assemblée, faites de frères et sœurs nés de nouveau, rachetés par le sang du Christ, c'est là que nous trouvons le frère. Celui qui dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, ne l'aime pas, c'est un menteur devant Dieu. C'est du baratin. Et Dieu n'écoute pas ce genre de prière. Pourquoi cette précision? Simplement que très souvent, tout n'est que nouveau que nous soyons, tout racheté par le sang du Christ, chrétien dans notre cœur. Nous ne nous aimons pas les uns les autres dans l'Église. Parce que l'Église est faite de frères et de sœurs. Et je puis en témoigner parce que, étant donné le ministère que Dieu m'a confié, non seulement en France, en Suisse, en Belgique, en Afrique noire, aux Antilles, en Guyane, au Québec, j'en visite des églises de toutes dénominations. Ce que je peux entendre, c'est parfois littéralement décourageant. Des chrétiens qui viennent à notre rencontre, à ma rencontre, pour me parler de leur église. Et j'affectionne particulièrement ce genre de message pour le livrer dans les églises, encourageant les chrétiens à aimer l'église parce que Christ a aimé l'église. C'est écrit en Éphésiens 5, 25. Christ a aimé l'église. Et les chrétiens s'offrent le luxe de ne pas aimer leur église respective. Oui, bien Alain Choquet, me dit-on généralement, si vous saviez ce qui se passe dans mon église, vous ne l'aimeriez pas. À ceci, je réponds que mon église est restée l'Assemblée de la Nation à Paris, qui me recommande à l'œuvre du Seigneur, et qui représente un peu mon Antioche, mon point de chute, où mes enfants se rendent régulièrement et où l'une de mes filles va se faire baptiser incessamment. C'est mon église, et je sais les problèmes qui existent dans mon église, mais j'aime mon église avec ces problèmes. Et je m'interdis toute critique à l'égard de quiconque, de qui que ce soit, au niveau de mon Église. Christ l'a aimée, cette Église. Il l'aime. Et il l'accepte, il l'accueille telle qu'elle est, avec ses défauts comme avec ses avantages. Mais il l'aime telle que. Christ a aimé l'Église telle qu'elle est. Il sait livrer lui-même pour elle. Est-ce qu'il y a un autre chemin pour nous que celui-là? Bien sûr que le Christ s'est livré pour elle, pour la sauver, cette Église. Nous nous offrons à l'Église, non pas d'une façon expiatoire pour expier son péché, comme le Christ l'a fait, mais pour la servir, pour l'aimer, pour nous y attacher. Est-ce que nous aimons notre Église? Est-ce que nous aimons ses responsables, peut-être ses bergers, ses pasteurs, les membres qui la forment? Celui qui dit « j'aime Dieu », qu'il n'aime pas son frère, c'est un menteur. Est-ce que le Seigneur nous verrait menteurs ce matin? Si nous avions de la peine à aimer un tel ou une telle, si nous n'avions pas les atomes crochus avec un tel ou une telle, il importe de prier tous les jours pour ce tel ou cette telle, afin de réaliser que Dieu réalise en nous le miracle de les aimer, parce qu'il les aime lui-même tels qu'ils sont. Celui qui dit « j'aime Dieu » et qu'il haïsse son frère, c'est du baratin, c'est un menteur. Parce que Christ a aimé l'Église, et parce que Christ l'aime encore, et de même que Christ s'est donné à l'Église, nous devrions nous donner à elle pour la servir. L'Église est chère au cœur de Dieu. Elle est chère au cœur de Dieu telle qu'elle se présente à lui aujourd'hui, où que ce soit sur la surface de la terre, à partir du moment, bien sûr, où elle est faite de rachetés d'hommes et de femmes nés de nouveau, passés par une vraie conversion, celle du cœur, par la repentance et par la foi. Dieu l'aime, elle est chère à son cœur. Et la juger, la critiquer, ne pas l'aimer, c'est faire l'œuvre du malin, lequel a décidé de la rayer de la carte. Alors ne jouons pas les diables, ne faisons pas le jeu du malin. Et puis, le premier commandement dit que celui qui aime Dieu aime aussi son prochain. Alors le prochain, lui, où se situe-t-il? Où le rencontrons-nous couramment? Dans la sphère professionnelle, dans la sphère familiale aussi, au niveau de ceux et celles qui ne veulent pas croire en Christ. Le prochain se situe aussi dans notre voisinage. Il est partout le prochain. Il nous revient de l'aimer parce que nous aimons Dieu. Si nous n'aimons pas aujourd'hui le français, même s'il est de gauche, même s'il est de droite, même s'il est du centre, peu importe sa direction politique, son niveau social, je dirais son adhésion ecclésiastique, peu importe ce qu'il est, nous avons à l'aimer. Nous avons vocation d'aimer. Et c'est parce que le français n'est souvent pas aimé de nous, qu'il n'est pas attiré par nous au Christ pour son salut. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Nous avons donc à aimer les Français d'un amour débordant, parce que nous aimons Dieu. Nous avons à les aimer de sa part, où que nous nous situons. Au plan professionnel, oui, Merlin Chouaquier, vous vous êtes, comme on dit, à plein temps. Mais j'ai été homme d'affaires à Paris avant d'être à plein temps. J'étais associé dans mes affaires avec un autre homme d'affaires avec lequel nous partagions nos bénéfices. Mais Dieu est témoin que je criais à lui pour la conversion de mon associé, lequel un jour, dans ma salle à manger, au terme d'un repas, un dimanche, s'est donné au Seigneur pour devenir chrétien. Et chrétien engagé, alors qu'il est, il est ancien d'une assemblée en France. Nous avons donc à aimer notre collègue de travail, même s'il n'est pas aimable. Dieu ne nous demande pas d'aimer ceux qui sont aimables. Si vous aimez ceux qui vous aiment, que faites-vous d'extraordinaire, dit le Christ. Et c'est là où se distingue l'Évangile de tout le reste. Parce que notre prochain peut être aussi notre ennemi. Un voisin irascible qui nous crée des ennuis, qui nous embête. Un voisin invivable. Celui-là, Dieu nous demande de l'aimer. Parce que à la malédiction, il faut répondre par la bénédiction. Bénissez ceux qui vous maudissent, dit Jésus dans le sermon sur la montagne. À plus forte raison, évidemment, ceux qui ne nous maudissent pas. Mais nous devons en arriver à aimer jusqu'à nos ennemis, comme Christ a aimé ses ennemis. Nous ne devrions pas avoir d'ennemis, de notre côté en tout cas. Nous devrions aimer nos voisins, nos cousins, nos belles-mères. Nous devrions aimer tous les hommes où qu'ils vivent, dans quelque sphère que ce soit. Partout où nous rencontrons notre prochain, il doit se savoir aimer de nous. Et c'est l'amour qui brise les cœurs. C'est l'amour qui conduit les hommes et les femmes à la repentance, À la fois, la Bible dit que l'amour est fort comme la mort. Quelle force que la mort! Imaginez le nombre de générations qu'elle a envoyées dans la poussière de la terre depuis le commencement. Personne n'a pu lui résister, en dehors du Christ, qui l'a vaincu. Quelle grâce! Et par le fait qu'il met en nous énormément de certitude. Mais en dehors du Christ, la mort a envoyé dans la terre, dans la poussière de la terre, toutes les générations qui ont précédé. La nôtre, personne n'a pu lui résister, parce que la mort est irrésistible. Et parce que la mort est irrésistible, l'amour devrait lui aussi être irrésistible. Nous avons pour vocation d'aimer. Quel beau ministère! Voilà un ministère qui est pour tous! Pas seulement pour les pasteurs, les bergers, les anciens. Il est pour tous! Dieu te destine à aimer et à être sur cette terre une source de son amour. Quel magnifique ministère que celui d'aimer! D'aimer Dieu, bien sûr, et de le manifester au plan horizontal vers les hommes, quels qu'ils soient. Et puis le prochain, c'est peut-être aussi l'étranger dans nos portes. Combien nous avons d'étrangers en France, c'est incroyable. Me trouvant en Alsace pour une campagne d'évangélisation il y a peu de temps, près de Strasbourg, le pasteur méthodiste qui m'a accueilli là m'a dit, vous savez, nous risquons de n'avoir aux réunions que des Turcs. Tellement il y a Turcs parmi nous. Alors, en moi j'ai pensé, des têtes de Turcs, pas facile à évangéliser, hein. Et le pasteur de poursuivre, j'ai comme une envie de changer le nom de ma ville. Au lieu de l'appeler Bischwiller, puisqu'il s'agissait de Bischwiller, j'ai presque envie de l'appeler Turkheim. Tellement il y a de Turcs. Alors dans cette ville, j'ai prêché, tu aimeras l'étranger. Sur la base de Deutéronome 10-19, tu aimeras l'étranger dans tes portes. Et nous en avons des étrangers. Pourquoi avons-nous à aimer l'étranger? Simplement que Dieu aime l'étranger, est-il écrit en Deutéronome 10-18. Tu aimeras. Mais Alain Choquet, vous n'imaginez quand même pas. Vous vous rendez compte ce qu'il faut aimer comme personne dans l'Église, hors de l'Église? Mais nous n'en pourrons plus de porter des fardeaux, parce que nous ne pouvons pas faire autrement que d'aimer concrètement et de partager les fardeaux de ceux et celles vers lesquels Dieu nous envoie. Et c'est vrai. C'est vrai que ceux qui s'engagent et se livrent au Christ vraiment en offrande d'amour, alors Christ les redonne à l'Église, les redonne au monde, aux prochains, aux frères et sœurs, etc. Ceci fait que nous portons énormément de fardeaux. Mais si la foi rend tout possible, l'amour, lui, rend tout facile. Quand on aime, c'est facile. Quand on n'aime pas, c'est difficile. Et si nous gémissons la plupart du temps dans l'exercice de notre ministère ou que ce soit, c'est simplement que nous n'aimons pas. Parce que l'amour rend tout facile. Vous connaissez l'histoire de cette fillette qui avait un frère infirme. Un frère plus âgé qu'elle, qu'elle était obligée de porter pour lui permettre d'avoir une vie assez convenable. Elle le prenait dans ses bras pour lui permettre de descendre dans la cour en bas, etc. Elle le portait. Et un jour qu'elle le portait dans ses bras, ce frère plus âgé qu'elle, elle fut croisée par un passant dans l'escalier, lequel la volait à son secours pour lui dire « Mais écoute, ma petite fille, tu ne peux pas porter ce gaillard-là. Il est trop lourd pour toi, je vais te donner un coup de main. » Et la fillette de le regarder et de lui dire « Mais non, monsieur, il n'est pas lourd, c'est mon frère. Il n'est pas lourd, c'est mon frère. Ah, si les hommes étaient nos frères, ils ne seraient pas lourds à porter. » Et puis, troisième test, c'est avec celui-là que nous terminerons. L'amour se prouve par le don. Quiconque aime, non seulement donne de son temps, de sa vie, de son argent, mais aussi il se donne entièrement. L'amour a pour fruit le don, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Le don, donc, exprime le véritable amour. La Bible dit en ce qui suit, nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Nous devons aussi donner notre vie pour le monde. Le Christ est venu donner sa vie pour le monde. Le corps du Christ, qui est l'Église, n'a pas d'autre ministère que celui-là. L'Église devrait se donner au monde pour que le monde ait une chance de connaître Jésus-Christ et de venir à lui. Or, nous assistons généralement à une Église qui s'est coupée du monde. C'est à n'y rien comprendre du tout. Une Église qui souvent n'a pas compris le sens de sa séparation d'avec le monde, qui n'est pas une séparation physique, mais une séparation spirituelle et morale. L'amour donne et se donne. Donnez-vous vous-mêmes à Dieu, dit Romains 6, 13. Donnez-vous vous-mêmes à Dieu. Livrez-vous entièrement à lui parce que vous l'aimez. Mais là encore, cet amour ne doit pas consister qu'en paroles. Il faut véritablement nous offrir à Dieu dans une vraie offrande d'amour. Est-ce qu'il nous est arrivé de nous offrir à Dieu de cette manière-là? D'offrir nos vies en offrande d'amour à Dieu, pour les abandonner à ses pieds, pour qu'il puisse s'en servir à sa gloire de la manière qu'il voudra. Mais si l'amour s'exprime par le don, je dirais ce matin une mesure qui pour Dieu ne trompe pas. Parce que ceux qui ont beaucoup peuvent donner beaucoup, et ceux qui ont moins peuvent donner moins. À la lumière d'un texte en Luc 21, 1 et la suite, nous avons la vraie mesure de l'amour. Au terme d'une réunion comme celle-ci, enfin au terme d'un service religieux, les 13, c'est-à-dire Jésus plus les 12, étaient allés vers les troncs, à la sortie du service religieux, pour regarder les gens mettre dans le tronc. Ce que nous ne ferons pas personnellement. Parce que Christ avait autorité pour le faire, nous, pas. Et il avait une grande leçon à enseigner aux 12. Une fois donc le service religieux à son terme, ils sont allés vers les troncs, et là, ils ont regardé les gens mettre dans le tronc. Alors vous en aviez, au travers de tous les textes qui traitent de cette question, de cet événement, il y en eut qui passèrent, aisés, très riches, et qui mirent dans le tronc de ces pièces qui ont dû tomber dans un bruit considérable. D'autres, plus modestes après eux, ont aussi mis leur offrande dans ces mêmes troncs. Et les 13 continuaient de regarder les gens mettre dans ces troncs. Quand tout à coup est arrivée une pauvre veuve, laquelle n'avait que 2 petites pièces, toute sa fortune, et en la regardant mettre dans le tronc, Jésus a dit à ses disciples, regardez cette femme, c'est elle qui a mis plus que les autres. J'imagine ce qui a dû passer par la tête de Pierre. Pierre a dû penser, mais le maître a besoin de repos. Il doit être fatigué, certainement épuisé même. Il n'a pas vu les autres mettre dans le tronc. Il n'a pas entendu ces grosses pièces tomber dans ces mêmes troncs, dans un bruit considérable. Comment dit-il, c'est elle qui a mis le plus? Mais Jésus de poursuivre, c'est elle qui a mis le plus parce qu'elle a tout donné. Alors en réalité, Dieu teste notre amour de la manière suivante. Pas tellement dans ce que nous lui donnons, encore qu'il y regarde. Au niveau de notre temps, au niveau de notre vie quotidienne, au niveau de notre argent, il y regarde certainement. Mais je dirais qu'il regarde davantage à ce que nous avons gardé pour nous après lui avoir donné. Il y a là une mesure de l'amour qui ne trompe pas. Quelqu'un disait, je l'ai lu dernièrement au Québec, quand nous faisons un chèque au Seigneur, le Seigneur ne regarde pas tellement le chèque, ni la somme sur le chèque. Il regarde le solde sur le talon. Moi, ça me met mal à l'aise, ça. Et ça nous met tous mal à l'aise. Qui aime, donne et se donne. J'ai une petite histoire à vous raconter qui s'est passée au niveau de notre église. Une dame qui recevait chaque semaine le salaire de son mari et qui faisait immédiatement deux enveloppes. La première représentant la dîme, le dixième du salaire chaque semaine, et puis l'autre, évidemment, les neuf dixièmes à vivre pour la semaine. Mais un jour, Dieu s'est plu de brouiller les enveloppes. Et cette sœur, au lieu de prendre l'enveloppe de la dîme un dimanche matin pour la mettre dans l'offrande, elle a pris l'autre enveloppe, s'étant trompée. Elle a donc pris les neuf dixièmes du salaire de son mari. Et elle est allée au culte et généreusement elle a mis cela dans le tronc. Croyant toujours, ayant cru toujours qu'il s'agissait de la dîme, c'est une fois rentrée chez elle, après l'événement, qu'elle tomba de haut. Étant allée vers la seconde enveloppe, elle l'ouvrit et s'étant aperçue de l'erreur, elle courut vers son mari pour lui dire « Écoute, Henri, je me suis trompée d'enveloppe. J'ai mis les neuf dixièmes dans l'offrande. » Et on n'a plus que la dîme pour vivre toute la semaine. Est-ce que je dois aller trouver le trésorier pour lui expliquer l'erreur? Comment allons-nous tourner toute la semaine? Ça n'est pas possible. Alors son mari lui dit, écoute, ce qui a été donné au Seigneur l'a été. On ne lui reprendra rien. Seulement ouvrons la Bible et prions. Demandons au Seigneur sa grâce, son aide pour tourner toute la semaine. Et tandis qu'ils étaient là en prière, face à la parole de Dieu, Dieu leur a parlé de la manière suivante. Et c'est leur témoignage, en tout cas lui est maintenant décédé. C'est toujours le témoignage de cette sœur. Dieu leur a parlé de la manière suivante. Jusqu'à présent, vous me donniez la dîme et vous preniez le reste. Aujourd'hui, je vous donne la dîme, je prends le reste. C'est dire, on avait ainsi décidé. Simplement pour leur faire savoir que la dîme était une affaire de l'Ancien Testament, que le Nouveau Testament n'en parle pas, et qu'il faisait partie de l'ombre des choses à venir, et qui peut à la limite représenter un point de repère au niveau de notre offrande matérielle au Seigneur, mais en tant que chrétien, on ne compte plus avec cela. Nos cœurs ont été régénérés. La Bible, le Nouveau Testament ne parle pas de la dîme. C'est l'Ancien Testament qui en parle. Ceci pour vous dire que, qu'il s'agisse du don de notre argent, ou de notre vie, de notre temps, l'amour donne et se donne entièrement. Et c'est de cette manière-là que le Seigneur nous attend ce matin. Il nous attend au tournant pour nous dire, tu me dis souvent que tu m'aimes, mais tu vois au niveau de ces trois tests, où en es-tu? Est-ce la réalité? Oh, puissions-nous lui dire ce matin, Seigneur, je veux t'aimer davantage, mais je ne le peux pas personnellement. Or, tu donnes, Seigneur, ce que tu ordonnes. Tu donnes les moyens de t'aimer davantage. Seigneur, donne-moi les moyens de t'aimer davantage. Et que ce premier de tous les commandements, je puisse le mettre en pratique tous les jours pour ta joie, pour la mienne. Seigneur, et pour l'avancement de ton règne. Oh Seigneur, donne-moi de t'aimer. Et je terminerai en donnant quelques promesses pour ceux qui aiment Dieu. Il y a de ces promesses juste quelques-unes. La Bible dit ce qui suit. Que demande l'Éternel, si donc que tu l'aimes, afin que tu sois heureux. Le secret du bonheur. Il y a trop de chrétiens malheureux dans nos églises. Trop de chrétiens angoissés, chargés, dépressifs, simplement qu'il devrait aimer Dieu davantage, honorer ce premier de tous les commandements. Que demande l'Éternel, ton Dieu, sinon que tu l'aimes, afin que tu sois heureux? Le secret du bonheur. L'Éternel garde tous ceux qu'il aime. Psaume 145, verset 20. Il tient des richesses cachées, des choses qu'il a préparées d'avance pour ceux qu'il aime. 1 Corinthiens 2, 9. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Romains 8, 28. Jusqu'à notre mort qui peut avoir du prix à ses yeux lorsque nous aimons Dieu au psaume 116 verset 15. Et puis est-il écrit, le Seigneur a promis la couronne de vie à ceux qui l'aiment. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est là le plus grand de tous les commandements. Est-ce que nous aimons Dieu de cette façon-là? Ceux qui aiment l'Éternel, dit Juges 5, 31, ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil lorsqu'il brille dans sa force. Est-ce que vous êtes un soleil? Est-ce que nous sommes un soleil? Un soleil pour la France, un soleil pour notre pays, et qui connaît en ce moment toutes sortes de difficultés impossibles. Ceux qui aiment l'Éternel sont comme le soleil. L'Église du Christ en France devrait être un soleil pour la France, en même temps que le chrétien lui-même. Et voilà que tout à coup le Seigneur, maintenant, nous place devant une décision, en comptant sur sa grâce, bien sûr. Seigneur, pardon parce que jusqu'à ce jour, je ne t'ai pas aimé comme tu l'attendais. Et je n'ai pas aimé les hommes de ta part comme tu l'attendais aussi. Seigneur, ce matin, je veux te livrer ma vie en offrande d'amour. Je n'ai pas les moyens de t'aimer davantage. Et je ne trouve pas en moi-même ces moyens-là. L'amour de Dieu étant répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Et Dieu mettra alors en nous de quoi l'aimer davantage, pour faire de nous ces soleils, parce que nous aimons Dieu. Ces soleils qui éclairent autour de nous, et qui éclairent aussi la France. Seigneur, ce matin je me livre à toi en offrande d'amour. Nous allons verser dans un moment de silence, et c'est ce que nous allons dire au Seigneur, de tout notre cœur, comme pour partir à zéro, pour lui consacrer notre vie comme tout à nouveau. Et là où nous sommes assis, après le moment de prière, pour lequel nous serons silencieux, tous ceux qui décideront de se livrer en offrande d'amour, dans une consécration totale au Seigneur, je leur demanderai de se lever un court instant, pendant le moment de silence. On prie dans notre cœur, puis ensuite on se tient debout, on décide de livrer sa vie tout entière en offrande d'amour au Seigneur. Sur la base du plus grand de tous les commandements, on refuse à partir de ce matin une vie chrétienne médiocre, faite de défaites successives. On veut entrer dans la réalité des choses.
Une courte transition avec ce beau chant. Un grand classique que nous offrira l'artiste Philippe Viguier, chant intitulé Amazing Grace, Grâce infinie. Bonne écoute à toutes et à tous.
Amazing Grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. It was grace that saw my my fears believe. How precious is that grace I feel, the hour I first snares I have all been.
la qualité en toute simplicité. Ebenezer International, The Digital Gospel Journal, la radio qui vient vers vous pour vous servir. Mesdames et messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, nous arrivons à la fin de ce nouveau numéro de Logos Pod. C'était un vrai plaisir de passer en votre compagnie ces précieuses minutes à l'écoute de ce message que nous a apporté le prédicateur Alain Choiquier, message qui avait pour titre « Le plus grand commandement ». Si vous avez des questions, des suggestions, soyez libre de nous contacter à cette adresse francradio@aol.com. Je répète, francradio@aol.com. Et je vous rappelle, ce programme était une courtoisie de Trésors Sonores. Et j'en profite pour remercier le responsable de cette association pour l'autorisation qu'il nous a donnée pour utiliser les différents fichiers de sa grande banque de sons dans le cadre de notre ministère à la radio chrétienne Ebenezer International. À Dieu et à lui seul soit toute la gloire. Avant de partir, je voudrais également vous remercier, chers auditeurs et auditrices, de votre intérêt pour cette radio. Et dans ma prière, je demanderai toujours à Dieu de bien vouloir utiliser nos différentes émissions pour vous aider à mieux connaître sa volonté pour votre vie. N'oubliez pas de parler de cette radio autour de vous, afin que d'autres personnes puissent également bénéficier des différents services que nous vous proposons. C'était pour vous servir, au micro et à la réalisation, votre ami podcasteur, également pasteur pour la radio chrétienne Ebenezer International, Franck Doristil. Je vous laisse avec l'artiste chrétien Sébastien Demeret dans un très beau morceau qui ne manquera pas de vous plaire. Au revoir et à bientôt.
Wishing you were somebody else, but now you're sitting here all by yourself. Tell me now, what's going on inside your You've closed the door, the passageway to your soul. Lights are out and you don't know where to go. So here you are, lost and without hope. And you wish for something more. Truly yourself, 'cause I love you just the way you are.
deep inside your heart, you long for something more. Rest assured. Trust in me now and believe.